Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage, en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. De Nice, l'aréopagite, une femme de Médamaris et d'autres avec eux. Amen. Ce n'est pas la première prédication qui a été faite en Europe. Avant d'arriver à Athènes, l'apôtre Paul est passé par d'autres villes. Il est passé par la ville de Philippe, la ville de Thessalonique, la ville de Bérée. Mais ce sont les premières notes de prédication que nous avons. La seule ou la première, en tout le cas, que nous avons là. Et il est intéressant de noter que Paul s'y est pris différemment à Athènes que ce qu'il faisait auparavant, notamment quand il s'adressait à des Juifs. Lorsqu'il parlait à des Juifs, il partait toujours de l'Ancien Testament. Ici, il va parler du Dieu qu'il révérait, il va se promener dans la ville. Et puis, il va voir à un moment donné un autel à un Dieu inconnu et il va saisir l'occasion pour partir de là. Il dit, vous cherchez quelque chose, vous aspirez à quelque chose, c'est ce que je vais vous annoncer. Il va s'y prendre différemment. Pourquoi ? Parce qu'en face, il avait des gens qui ne connaissaient rien au Dieu de l'Ancien Testament, qui n'avaient aucun arrière-plan biblique et donc il est parti un petit peu de ce à quoi ils aspiraient. C'est ce que la Bible appelle se faire tout à tous. Et Paul l'a fait extrêmement bien. Athènes était une ville remplie d'idoles. Il paraît qu'il y avait plus d'idoles que de personnes. C'est ce qu'on dit. Nous savons que l'idolâtrie, c'est un péché qui consiste à faire un Dieu à sa convenance. C'est un péché qui consiste aussi à donner à quelque chose d'autre la place qui revient à Dieu. Alors bien sûr, à cette époque, l'idolâtrie avait des formes grossières. Mais nous savons qu'aujourd'hui, l'idolâtrie peut être aussi peut prendre des formes plus subtiles. On peut avoir comme Dieu le plaisir, on peut avoir comme Dieu l'argent, on peut avoir toutes sortes d'idoles, des choses qui prennent la place de Dieu. Dans le message que Paul va délivrer, il va dire des choses très simples. Il va rappeler que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé ce monde. Il va rappeler que si on existe, finalement, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est lui qui donne la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Et puis, il va rappeler que Dieu est finalement au contrôle de tout. Il contrôle tout, ce qui se passe sur cette terre et ce qui se passe dans nos vies. Et puis, il va arriver à un moment donné à faire une déclaration très importante, et c'est ce verset qui va nous intéresser cet après-midi. Au verset 30, je le reprends, quand il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera les hommes. » Et finalement, ces deux versets, 30 et 31, répondent à beaucoup de questions que l'on pourrait se poser ou que quelqu'un pourrait se poser cet après-midi. D'abord la question, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est la question que quelqu'un pourrait se poser. Et la Bible affirme clairement, Dieu annonce tout de suite la couleur. Ce que Dieu veut, c'est que tu te repentes. Qu'ils aient à se repentir, qu'ils se repentent. C'est dit clairement. Voilà ce que Dieu attend de chacun. Alors bien sûr, on a besoin de comprendre ce que signifie la repentance. La repentance, je dirais, il y a deux grandes choses. C'est d'abord une prise de conscience de sa faillite, une prise de conscience que notre vie est un échec, une prise de conscience que notre vie n'est pas celle que Dieu veut et que si rien ne se passe, je vais dans le mur. C'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose de puissant en moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas et qui me fait faire et que je n'arrive pas à faire ce que je voudrais. Cette puissance s'appelle le péché. Et il doit y avoir cette prise de conscience, cette prise de conscience que le péché habite en nous et que nous sommes atteints de ce mal. Mais il faut de la sincérité pour reconnaître qu'on est un pécheur. Parce que c'est une vérité qu'on a du mal à entendre. De réaliser que je suis pécheur, le mal est en moi, que même quand je fais du bien, souvent c'est teinté, il y a des zones d'ombre, et que finalement, il n'y a pas grand-chose de parfaitement bien qu'on arrive à faire. Et puis la repentance, c'est aussi derrière cette décision courageuse de rompre avec le mal, de dire « désormais, ça va changer, désormais, je veux renoncer à ça, ça c'est mauvais dans ma vie ». Ça me détruit, ça m'éloigne de Dieu, je me sens coupable quand je fais ceci ou je prends cela et je m'en détourne. C'est une mise en action, une rupture avec son passé. C'est une décision qui demande du courage et de la foi. C'est ça la repentance, prise de conscience qu'on est pécheur et puis ensuite on enclenche le mouvement. Maintenant, je voudrais dire quelque chose qui est important. C'est qu'il faut comprendre que si la repentance, c'est l'homme qui l'engage, c'est l'homme qui l'enclenche, c'est aussi Dieu qui l'a produit. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui permet son accomplissement dans notre cœur, parce qu'on peut prendre conscience de son péché, encore que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. Et puis je peux décider d'arrêter ceci, mais si Dieu ne me secourt pas, si Dieu ne m'aide pas à me détourner, à dire non à ceci ou à cela, je n'y arriverai jamais. C'est Dieu qui produit la repentance, mais il le fait avec moi. Si quelqu'un n'a pas envie de se repentir cet après-midi et veut demeurer dans son péché, continuer dans sa mauvaise voie, Dieu ne va pas l'enclencher. Mais si quelqu'un prend conscience et dit « mais moi, il faut que j'arrête ça, mais si ça ne change pas, je vais me perdre », quelqu'un enclenche et dit « Seigneur, aide-moi », alors là, il va se passer quelque chose. Et Dieu va déverser sa grâce. Et l'Esprit de Dieu va permettre d'enclencher la repentance. Voilà pourquoi elle est importante et voilà pourquoi elle fonctionne avec la foi. La repentance et la foi. une autre question que l'on pourrait se poser, mais suis-je vraiment concerné? Est-ce que tout le monde est concerné ou seulement quelques personnes, les criminels, les gens de mauvaise vie? Quand Paul a dit cela, certains ne se sont pas cru concernés. Hein. Mais pourtant, il a dit tous les hommes. Dieu annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Je disais tout à l'heure que l'apôtre Paul, dans sa prédication, il l'a commencé, il est parti différemment de l'habitude. Mais la prédication de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Pierre arrivait toujours à la même chose. À un moment donné, un appel à la foi et à la repentance, à changer de vie. Vous vous rappelez la première prédication de l'apôtre Pierre, quand ils eurent le cœur vivement touché, il leur dira « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés. » Il leur parlera de cette manière-là. Personne n'est dispensé de la repentance. On pourrait penser, des fois, mais certains, oui, ils en ont vraiment besoin. La Bible nous dit « personne, parce que le péché, il habite dans chacun d'entre nous. » Alors certains sont des pécheurs intelligents, il y en a d'autres qui sont des pécheurs stupides, hein, si on pourrait parler comme ça. Certains, le péché, c'est très voyant sur eux, d'autres savent mieux le cacher, être discret ou le dissimuler, vous mettez le mot que vous voulez. Certains sont conscients de leur péché et portent une culpabilité, d'autres s'y complaisent dedans et n'ont pas envie d'y changer, mais il n'y a que des pécheurs. Parmi les auditeurs qu'il avait en face de lui, il y a certaines catégories qui sont précisées. Il nous est dit qu'il y avait des épicuriens. Les épicuriens, ce sont des gens qui prenaient le plaisir avant tout. Ils recherchaient le plaisir. Ils ne s'occupaient pas de l'avenir et encore moins de l'éternité. Eux, c'était le plaisir dans l'instant présent. Hein, mange, éclate-toi, c'est ça la vie. Dites-moi, les épicuriens, il n'y en a toujours pas? Je crois qu'il y en a encore aujourd'hui. Hein. On en trouve encore beaucoup, des gens qui pensent à la vie. Mange, bois, puis demain, on mourra, on verra bien, c'est fini. Hein, mais il y en a encore. Et eux, ils avaient besoin de se repentir. Besoin de prendre conscience que la vie, c'est pas ça. Et qu'il faut raisonner autrement. Il y avait aussi les stoïciens. Les stoïciens prenaient la maîtrise de soi et la raison. C'était une forme d'orgueil intellectuel. Aujourd'hui, on en a encore des stoïciens. Des gens qui sont trop intelligents pour croire. C'est la raison. Je crois que ce que je vois ou que ce que je peux expliquer. Ouais, et il y a des choses qu'on aura toujours du mal à expliquer, pourtant il faut les croire et faire avec. Mais les stoïciens vont raisonner un petit peu de cette manière-là. Eux aussi étaient concernés par la repentance. Et il nous est dit aussi que les Athéniens passaient leur temps à écouter des nouvelles. Alors, je ne pense pas qu'ils étaient branchés sur BFM TV à cette époque. Ça, ce n'était pas possible. Mais il semble que c'était plutôt dans le sens qu'ils étaient toujours en recherche de nouveautés. Et ça, je me dis, ça n'a pas changé. Les gens qui sont en recherche de nouveautés, il y en a plein. Alors, on ne cherche pas tous les mêmes trucs. Il y en a qui sont en recherche de nouvelles sensations. On est dans une région sport de montagne, sport extrême. Ah, il y en a qui aiment ça. Ils sont friands de ça. Il en faut toujours un petit peu plus dans ce domaine. Il y a ceux qui cherchaient les nouveaux gadgets. Ça s'observe encore aujourd'hui. Il y a ceux qui voulaient peut-être de nouveaux combats ou de nouveaux potins ou je ne sais quoi. Enfin, hein, vous savez qu'aujourd'hui, pour faire vendre quelque chose, on met des fois nouveau ou on met new hein, en anglais, mais... On essaye un petit peu, mais ces gens-là, ce qu'ils ont besoin, c'est pas de nouvelles choses, c'est pas de nouvelles sensations, c'est pas de nouveaux potins. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vie nouvelle. Ce dont tu as besoin, c'est d'une transformation du cœur. Et ces gens qui passaient leur temps à écouter des nouvelles avaient besoin de passer aussi par la repentance. On pourrait prendre toutes les catégories de personnes qui ont entendu le message de l'apôtre Paul. Ils avaient tous besoin de passer par la repentance. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quels que soient les individus, quelle que soit la manière dont le péché les tient, mais nous avons tous besoin, à un moment donné, de passer et d'accepter de nous repentir. Ce que l'on peut ajouter, et je viens un petit peu de le dire, c'est que la repentance, elle prendra des fois des formes diverses. Parce que le péché ne nous tient pas toujours de la même manière. Mais il y a toujours une prise de conscience de ce qu'est le péché, de réaliser que ça, notre vie est un échec, une faillite, et de dire non à certaines choses. Il y a toujours une rupture. La foi, la vie nouvelle, elle nécessite une rupture avec quelque chose. Et je dis ça à une période où on prêche un évangile aujourd'hui où c'est finalement saisi la grâce, mais n'abandonne pas trop ta vie passée. C'est comme si on a un vieux vêtement, des vieux haillons, et il faudrait mettre un bel habit dessus. Non, non, non. Pour mettre le bel habit que Dieu nous propose, il faut enlever les haillons que nous avons. Ça passe par ce chemin-là. Une autre question que l'on pourrait se poser, et auquel l'apôtre Paul répond, quand ? Dieu annonce maintenant. Maintenant. Alors le maintenant est à comprendre un petit peu dans un sens historique par rapport à... Il est question des temps d'ignorance. Dieu annonce dans... Il a déjà... Je reprends le texte, hein, verset 30. Dieu annonce... Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Le maintenant semble marquer un changement par rapport à ce qui a précédé. Dans le sens que dans le passé, Dieu n'exigeait pas de l'homme ce qu'il pouvait faire maintenant, des choses qu'il ne pouvait pas comprendre autrefois, qu'il peut comprendre maintenant. Les Grecs, par exemple, n'avaient pas eu accès à l'Écriture, à l'Ancien Testament. Dieu tenait compte de ça. Il tient compte de leur ignorance passée. Mais donc il faut comprendre cette parole maintenant. Mais quand il dit maintenant, c'est, je crois qu'il faut le prendre aussi dans un sens très simple. Ça veut dire maintenant. La repentance, c'est pour maintenant. Le temps de Dieu, c'est toujours maintenant. C'est alors que le diable, il susurre des fois deux choses à l'oreille. Il va dire des fois plus tard. T'as le temps maintenant, tu peux t'amuser. Quand tu seras un petit peu plus vieux, là tu sens que tu vas partir de l'autre côté. Là, tu pourras donner ton cœur au Seigneur. Mais pour l'instant, il dit plus tard, souvent dans l'oreille des jeunes gens. Alors dit plus tard, plus tard, plus tard. Sauf que quand on est vieux, certains l'ont trop fait. Et après, c'est une autre voie, c'est trop tard. Et vous avez des personnes qui sont piégées de cette manière-là. Le temps de Dieu, c'est maintenant, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ah, et c'est parce que maintenant, c'est le seul temps que je maîtrise. Ou des fois, on a un petit peu à faire des projets, on regarde devant, on dit, ah, quand je ferai ceci, je ferai cela. Mais la Bible, elle ne parle pas comme ça. Vous vous rappelez, la Bible nous parle d'un riche appelé insensé. Ce riche avait des projets, et je vais faire ceci, je vais faire cela. Et à un moment donné, il y a une voix du ciel qui dira, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et je ne peux pas remettre à plus tard la décision que je dois prendre aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de la repentance. Je le disais il y a quelque temps, mais lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais là, ça bataillait. Il y a une sœur qui m'a dit, c'est maintenant Joël, c'est maintenant. Elle a poussé, elle m'a donné un coup de pouce. Et ça m'a aidé quelque part à m'approcher. J'ai donné ma vie à Christ à ce moment-là, enfin, en tout cas, j'ai su que j'étais né de nouveau dans les instants qui ont suivi. J'ajouterai quand même qu'il y a des fois des moments qui favorisent la repentance. Par exemple, la proximité de la mort. Mais des fois, la mort, elle ne prévient pas. Hein. Donc, je ne peux pas attendre. Et puis, hein, pendant longtemps, moi, j'avais entendu parce que j'étais aller au culte des enfants, on m'avait dit, de toute façon, du moment que tu demandes pardon avant de mourir, t'es sauvé. Alors je me suis dit, je vais toujours sortir mon dernier joker avant de mourir. Sauf qu'un jour, je me suis fait renverser par une voiture. J'ai fait 5 mètres sur le capot. J'ai vu beaucoup de choses défiler. C'est parti dans tous les sens. J'ai rien eu, mais j'ai pas eu le temps de demander pardon au Seigneur. Et j'ai compris qu'après, que si j'étais mort là, c'était fini. Donc des fois, on a des raisonnements qui sont faux. La souffrance aussi, elle peut des fois me disposer à la repentance, mais le problème de la souffrance, c'est qu'elle peut faire exactement l'inverse. Mais quand on entend l'Évangile et qu'on sent que l'Esprit de Dieu met le doigt sur notre péché, c'est le moment de se repentir. Il ne faut pas remettre à plus tard. L'apôtre Paul, il répond aussi à notre question. Où se repentir? En fait, ça dépend beaucoup du camp. Mais il est dit en tout lieu. Dieu annonce maintenant en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Nous comprenons qu'il n'y a pas de lieu spécifique pour se repentir. C'est quand je prends conscience de mon péché, ben je le fais là. Alors bien sûr, après, c'est vrai que des fois, tout seul, avec Dieu, c'est le moment favorable. Beaucoup d'entre nous ont peut-être un jour entendu l'évangile et sont rentrés chez eux, se sont enfermés dans leur chambre et ont dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Dans la Bible, en tous les cas, on voit des endroits pour se repentir assez remarquables. Il y en a quand même un qui s'est repenti au fond d'un poisson. Hein. Faut le faire, hein, avec la tête en bas des fois. Le poisson devait avoir un petit peu d'aérophagie pour qu'il puisse respirer. Mais quand même, il s'est repenti. Quand vous relisez le chapitre 2 de Jonas, c'est dans le poisson qu'il se repent. Hein. Mais on peut le comprendre aussi, proche de la mort. Hein, c'était conscient que sa vie était un échec. Et ben, il a demandé pardon pour son péché. Mais la Bible nous parle aussi d'un brigand qui s'est repenti sur la croix, en train de mourir, dans des souffrances, dans l'agonie. Et là, il va prendre conscience de qui est Jésus. Et il va se repentir. On trouve, je pense aussi au fils prodigue. Lui, la repentance, elle va s'amorcer quand? Quand il sera au milieu des cochons. Et qu'il réalisera qu'il ne valait pas plus que les cochons. Il était aussi sale qu'eux. Il sentait aussi mauvais qu'eux. Et il prendra que sa vie, c'était ça. Là, il va se repentir. Mais j'insiste pour dire que le « où » dépend surtout du « quand ». Et le « quand », c'est maintenant. Et puis, peut-être quelqu'un pourrait dire aussi, « Mais moi, pourquoi devrais-je me repentir ?» L'apôtre Paul répond aussi à cette question. « Parce qu'il jugera le monde. » Et dans le monde, il faut se mettre. Un jour, nous serons jugés. La Bible nous dit que tous les hommes seront jugés. Un jour, nous comparaîtrons devant Dieu. Et la Bible nous dit en plus déjà à l'avance le verdict, coupable. Nous sommes tous des pécheurs. Et si Christ n'est pas dans notre vie, la Bible nous dit qu'il y aura la condamnation. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. On connaît donc le verdict, mais la Bible nous dit que celui qui croit au Fils, il est déjà jugé, parce que notre jugement est tombé sur Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la repentance est absolument indispensable. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et puis, une autre question qui pourrait, ça sera la dernière, mais comment? Comment? Alors là, l'apôtre Paul n'y répond pas directement, mais on le comprend par rapport à tout ce qu'il a dit. Et bien, accepter ce verdict, même si des fois on ne réalise pas tout son péché, parce que l'Esprit de Dieu sait nous montrer. Personnellement, dans mon parcours, j'ai pris conscience de mon péché quand j'ai donné mon cœur à Jésus, mais j'ai pris encore plus conscience du péché un an ou un an et demi après avec une expérience précise. Parce que voilà, Dieu sait. Mais ce qui est important, c'est quand on entend l'Évangile, on accepte ce verdict. Seigneur, je suis un pécheur. Je ne saisis pas tout. Je ne mesure pas la gravité du péché, mais je sais que c'est grave parce que tu es mort sur la croix à cause de mon péché. Et j'accepte ce verdict. Et même si j'en mesure pas la gravité, j'en ressens peut-être pas les émotions au point de pleurer, j'accepte ce verdict. Je l'entends. Et puis, l'autre moyen, c'est je me tourne vers Christ. Et je regarde notamment vers un endroit, vers Golgotha. Je regarde à la croix. Je suis toujours impressionné des témoins de la croix. Vous avez à la croix des gens qui deviennent pires. Ils sont mauvais et ils deviennent pires. Je pense à l'un des brigands sur la croix. Je pense à ces gens qui se moquent de Jésus et qui le méprisent. Mais je suis toujours aussi impressionné de l'autre côté par le fait que certains à la croix, le voile se déchire. Plusieurs. Ce centenier qui a vu des dizaines et peut-être des centaines de gens mourir, qui n'étaient pas prêts de s'émouvoir devant une mort. Quand il verra Jésus, assurément, cet homme était fils de Dieu. Mais c'est fou, ça. Et là, il a entendu peut-être la prière de Jésus, sa mort différente, enfin, mais hop, le voile est en train de se déchirer. Je parlais dans la semaine de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, ces gens du Sanhédrin qui avaient envie de croire en Jésus, mais c'était un peu caché. Mais à la croix, ça y est, ils s'ouvrent, ils se révèlent, ils y vont, ils se positionnent pour Jésus. Et puis ce brigand sur la croix, quand il dira, au départ, il se moque de Jésus, l'insulte. Et puis à un moment donné, il y a un changement. Un changement, mais on dit comment il se produit ce changement. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais qui a dit à ce brigand que Jésus allait régner? Comment pouvait-il comprendre ça? C'est parce qu'en regardant vers la croix, en considérant la croix, en se posant peut-être les bonnes questions, le voile s'est déchiré. La repentance commence à s'amorcer. La foi commence à venir. Lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, on lit l'évangile, on est obligé de tomber sur la croix. La croix, c'est ce qui occupe le plus de place dans l'évangile. Et on est obligé de se poser des questions. Pourquoi il est arrêté? Pourquoi on le met à mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi Dieu laisse faire ces choses-là? Pourquoi il ressuscite? Quel est le sens? Et quand on se pose ces questions, à un moment donné, l'Esprit de Dieu nous parle et nous dit, c'est pour toi. C'est à cause de tes péchés. C'est pour que tu puisses être sauvé. C'est pour que tes péchés puissent être effacés. Et il se produit ce que certains ont vécu là. Les yeux du cœur s'ouvrent. La grâce est en train d'agir. On en connaît beaucoup. Je pense à ce jeune homme qui lisait un jour et qui entendait parler de Jésus. Il dit, mais comment ça se fait? Pourquoi lui qui pouvait échapper se laisse-t-il crucifier? Et en se posant ces questions à un moment donné, il a entendu, c'est pour toi. C'est pour toi. Et là, le voile s'est déchiré. Et il a réalisé qu'il était pécheur. Et que la croix, la mort et la résurrection de Jésus lui donnaient la vie. Voilà le message, la première prédication. Je dirais dont on a les notes faites à Athènes, en tous les cas. Et ça, c'est l'annonce d'une grande nouvelle. Dieu vous annonce en tout lieu que les hommes ont besoin de se repentir. Je termine simplement en disant qu'il y a eu trois réactions. Et finalement, il n'y a que trois réactions possibles. Il y a ceux qui se sont moqués, il nous est dit. Ils vont dire, c'est de la bêtise, c'est des âneries. Il y en a qui ont dû parler comme ça. C'est quoi ce truc de la mort, de la résurrection? Mais tu rêves ou quoi? Il y a ceux qui réagiront toujours comme ça. Manière de se défendre. Il y a ceux qui ont remis à plus tard. Ils ont dit, une prochaine fois. Ça, c'est une autre manière de dire non. Je repousse ma décision. Sauf que, comme je le disais, remettre à plus tard, c'est peut-être, et c'est souvent, jamais. Et puis, il nous est dit qu'il y en a quelques-uns qui se sont décidés. Ils ont cru et ils se sont repentis. On est forcément dans les trois catégories. J'espère que chacun, cet après-midi, se placera dans la troisième, s'il ne l'a pas déjà fait, bien évidemment. On va prier le Seigneur.